Chapitre 9. Au fou, au fou. Qu'est-ce que l'amour? On le savait il y a quelques mille ans. L'amour devait être alors, dans l'idée des hommes, une chose aussi agréable que la fraise des bois, bien qu'autrement parfumée. Le monde était un peu sauvage, on n'accommodait point encore les fraises au vinaigre, et le progrès des siècles ne nous avait pas enseigné comment, du plus doux de nos plaisirs, nous pourrions faire la plus cruelle de nos souffrances. L'amour, de ce temps-là, était aussi simple que le costume, un peu trop simple en vérité. Personne n'avait imaginé d'ajouter à un sentiment aussi parfaitement agréable dans sa naïveté ses lubies personnelles en guise d'ornement, pas plus que d'agrémenter la primitive feuille de figuier de ses mille et mille brimborions de toutes formes, de toutes couleurs, qui la dénaturent si bien et vous plaisent tant, belle lectrice. Maintenant, remontez sans la Bible et par la seule puissance de l'induction à l'origine de votre dernière toilette et devinez comment ce fouillis de dentelles, de nœuds, de rubans, de velours tressés et de soie découpée s'est accroché morceau par morceau dans le cours des siècles autour d'une feuille d'arbre large comme la main, serait facile, en comparaison de retrouver la signification première et vraie du mot « amour », sous le nuage flottant de folie, de fantaisie et de rêve, dont certains cerveaux creux qui font métier d'écrire l'ont insensiblement affublé. Vénérez, madame, les modistes qui vous font charmante, mais laissez-moi détester les poètes qui, sans que personne ne les en priât, ont ainsi perverti l'idée de l'amour parmi les hommes. L'étoile scintille et la fleur sent bon. Ah, si l'étoile embaumait, si la rose scintillait! Et ils jurent, les brigands, que cela s'est vu quelquefois. Nous les croyons, la rose et l'étoile se moquent de nous. Alors, désespérés de ne pas trouver dans l'amour les idéales délices que nous avions rêvées, nous passons, sans voir celles que la nature y mit, et nous voilà pleurant et gémissant, pareils aux enfants trompés par les contes de nourrice, qui se trempent jusqu'au dos un jour d'orage, prennent le torticolis, et pleurent ensuite de ne pas voir Dieu le Père en son bleu paradis par la fissure éblouissante de l'éclair. Et la cause de tout cela? Les poètes, parbleu! Les poètes qui se moquent de nous, comme les capucins de ceux qui font maigre, les poètes que l'humanité crédule couronne de laurier et que l'on devrait, au contraire, honorablement fouetter avec des roses, en laissant les épines, bien entendu. J'ai sans doute le droit de leur en vouloir, j'imagine. Moi, Jean des Figues, qui trouvais à 15 ans, enfermé dans la malle de mon cousin, comme une goutte de poison dans un flacon, la quintessence des folies sentimentales. Moi qui, par la faute des poètes, crus aimer quand je n'aimais pas, et fus ensuite amoureux 3 ans durant sans m'en apercevoir. Excellente façon de perdre sa jeunesse. Ah, sans eux, sans les poètes, sans Blanquet, le cousin Mitre et sa malle, sans le rayon qui me travaillait le cerveau, et sans les mille folles idées dont le bourdonnement m'empêchait d'entendre la voix de mon cœur, je n'aurais pas usé mon bel âge à poursuivre un fantastique amour, et j'eusse tout de suite reconnu l'amour véritable, l'amour naïf, éternel et divin, le même aujourd'hui qu'aux temps antiques, j'eusse reconnu l'amour quand je le rencontrais, où, m'en allant à maigre mine, je m'étais assis, tant la chaleur accablée, sous un arbre, en l'endroit même où la route entre dans la petite plaine d'amandiers. Depuis 2 jours, le vent des fleurs soufflait, la tiède brise qui fait éclore les fleurs et les maris, et, dans la plaine, sur les coteaux, à part la verdure joyeuse des jeunes blés, toute la campagne était blanche. L'air sentait bon, les arbres ployés sous des flocons de neige embaumés, les pétales effeuillés tourbillonnaient partout dans les parfums et la lumière, comme des vols de papillons blancs, et pour cadre à cette joie, à ces blancheurs, les grandes Alpes, déjà revêtues des chaudes vapeurs de la belle saison, mais encore couronnées de neige, se dressaient dans le lointain, blanches et bleues, comme les vagues de la Méditerranée quand elles secouent leur écume au soleil un lendemain de tempête. Il faut croire que les jeunes rayons de mars produisent l'effet du vin nouveau et qu'ils m'avaient ce jour-là porté à la tête, car bêtement, à ce spectacle, je me sentis des larmes plein les yeux et, comme Scaramouche, assis sur sa queue en face de moi, me regardait malicieusement à travers ses lunettes, Je lui demandai pourquoi, étant amoureux de Mademoiselle Reine, j'avais le cœur si vide et me trouvais tout d'un coup si malheureux. Scaramouche ne me répondit rien. J'étais en train de lui confier ma douleur quand, au détour de la route, « Bien le bonjour, monsieur Jean des Figues !»« Bien le bonjour, Rosette » dis-je en sortant de ma rêverie. C'était Rosette, une petite bohémienne recueillie par les fermiers de Maigremine pour garder la chèvre et que Madame Cabridens venait d'élever à la dignité de femme de chambre. « Prends garde, Rosette, la grande chaleur va te brunir les joues. Monsieur Jean des Figues, vous voulez rire ?» Le fait est que cette brave Rosette, plus noire qu'un raisin et brûlée dans le moule, comme on dit, tout le monde la trouvait laide. Mais à ce moment-là, je fus presque de notre avis. Appuyée d'une épaule contre mon arbre, haletant un peu à cause de la chaleur, le haut de son corsage s'entr'ouvrait légèrement à chaque fois qu'elle respirait, et, tout ébloui de ces choses nouvelles, je restai longtemps, sans rien dire, à boire du regard la fraîcheur de ses dents éclatantes qui riaient et la flamme de ses grands yeux profonds qui gardaient toujours, même lorsque ses lèvres riaient le plus, un peu de tristesse sauvage. Voilà longtemps que je connaissais Rosette, mais, à coup sûr, je ne l'avais jamais vue. Que se passa-t-il en moi ? Je ne m'en rendis pas bien compte, car jamais, auprès de Reine, je n'avais éprouvé rien de pareil. Dieu me pardonne si je fus coupable, mais de me sentir si près de Rosette, frôler de ses cheveux et de sa robe, de la voir si belle, de respirer, en même temps que l'air chargé du parfum amer des fleurs d'amandier, les arômes vivants de sa peau, tout cela me grisa, peut-être, car, la prenant par surprise entre mes bras, je cueillis sur ses joues, quoique les archives du cousin Mitre ne m'eussent rien enseigné de pareil, le plus savoureux baiser du monde. Ce démon de Rosette riait, mais moi, son baiser me brûla. Il me vint au cœur, subitement, un grand remords, en même temps qu'une grande joie, et, ne sachant plus ce que je faisais, je me sauvai à toutes jambes du côté de Maigremine. Au bout de 100 pas, je retournai la tête, courant toujours. Alors j'aperçus la maudite bohémienne qui, montée sur le mur d'un champ, me regardait en riant et criait de toutes ses forces « Ô fou ! Ô fou ! Ô l'ensoleillé ! Ô Jean des Figues !»